C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Un chiffre à la une ce matin, 8000 morts par an. C'est ce qu'on pourrait éviter en faisant plus d'efforts pour la qualité de l'air en Île-de-France. Première fois qu'un tel décompte est réalisé. On va vous expliquer sur quoi il est basé. Touché peut-être, mais pas coulé. Le camp Pécresse minimise les conséquences du départ d'Éric Woerth, le député LR rejoint Emmanuel Macron à 3 jours du grand meeting de la candidate de la droite. Dans ce journal, nous serons aussi avec les automobilistes d'un convoi de la liberté parti hier de Bayonne. Direction le Royaume-Uni, le footballeur français Kurt Zouma dans la tourmente après avoir maltraité son chat. Et puis cette découverte qui rebat la chronologie de l'évolution. Néandertal et Homo sapiens se sont peut-être croisés.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le danseur étoile à l'Opéra de Paris, Germain Louvet.
France Inter.
Quand les effets de la pollution, Alexis, la pollution de l'air deviennent soudain très concrets.
En Île-de-France, un décès sur 10 est la conséquence de l'air pollué. Et même si cela va mieux qu'il y a 10 ans, on est encore très loin du compte selon la nouvelle étude d'Air Parif. Pour la première fois, l'organisme indépendant et l'Observatoire régional de la santé ont calculé le nombre de morts qu'on pourrait encore éviter chaque année, simplement en respectant les recommandations de l'OMS, donc des seuils plus stricts que ceux actuellement en vigueur. Sandy Dauphin, ça se compte en milliers de vies à sauver, près de 8000.
Dioxyde d'azote, particules fines PM2,5, ozone, pour les polluants majeurs, les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé mises à jour en septembre dernier sont loin d'être respectées en Île-de-France, explique Pierre Pernaud, ingénieur à Air Parif.
L'ensemble de la population en Île-de-France est concernée par au moins un dépassement des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Et il faut savoir qu'il y a des endroits en Île-de-France où on peut observer pour le dioxyde d'azote, on peut avoir des concentrations de 8 fois supérieures à ces recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.
L'étude calcule le nombre de décès évités si les concentrations de polluants respectaient les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, des seuils plus stricts que ceux en vigueur en Europe.
Les particules fines, les PM2,5, qui est le polluant qui a un impact sur la santé le plus important, le dioxyde d'azote émis principalement par le trafic routier, et l'ozone, qui est le seul polluant qui augmente depuis plusieurs décennies maintenant. Si on ramène les concentrations pour ces trois polluants, aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, on évite en Île-de-France 7900 décès.
L'étude montre aussi que les politiques de lutte contre la pollution de l'air sont efficaces lorsqu'elles sont mises en place. En Île-de-France, plus de 6200 morts étaient attribuables aux particules fines PM2,5 en 2019. C'est 40% de moins que 10 ans plus tôt.
Les explications de Sandy Dauphin. Autre enjeu pour l'environnement, atteindre la neutralité carbone en 2050. Pour Emmanuel Macron, ça passe par un mix entre énergie nucléaire et renouvelable. Il doit détailler cet après-midi à Belfort son plan de construction de nouveaux réacteurs EPR. EDF propose d'en construire 6 pour 50 milliards d'euros, mais le chef de l'État pourrait aller au-delà. De quoi peut-être animer la campagne présidentielle sans être encore candidat. En tout cas, il y en a un qui n'a pas attendu cette officialisation pour se rallier à une candidature Macron. C'est Éric Woerth, le député LR de l'Oise, président de la commission des finances à l'Assemblée, qui fait défection à droite. Coup dur pour Valérie Pécresse à 3 jours de son grand meeting parisien, même si dans son entourage, Anne Souhaitemont, on fait mine de ne pas être touché.
Déminé.
Par rapport à la dynamique de notre campagne, je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance.
Déminé.
Moi, je ne crois pas au fait que les mercato ont un impact.
Déminé.
Éric Woerth, en réalité, ne rapporte aucun électeur.
Qu'il soit directeur de campagne, cadre LR ou parlementaire, le mot d'ordre est clair, minimiser la défection d'Éric Woerth. Le ralliement de l'ancien ministre sarkozyste à Emmanuel Macron sonne pourtant comme le symbole d'une campagne qui patine. Rien ne va plus, décrypte un parlementaire, le nez sur des sondages qui traduisent un manque de dynamique. Loin derrière Emmanuel Macron, Valérie Pécresse reste scotchée au même niveau que Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il faut impérativement passer la deuxième, s'inquiète un élu. Aucune proposition ne passe le mur du son, renchérit un autre. Tous les yeux sont donc rivés vers dimanche. Valérie Pécresse, attendue au tournant par ses troupes, tiendra son premier grand meeting à Paris. 7000 personnes attendues pour l'ouverture d'une nouvelle séquence, promet-elle. Le discours de sa vie, veut croire un proche, qui aimerait la voir enfin fendre l'armure, se dévoiler. Critique en privé sur le déroulement de la campagne, le manque d'incarnation de la candidate. Nicolas Sarkozy a décliné l'invitation, mais l'ancien président a rendez-vous avec Valérie Pécresse demain, 2 semaines après avoir déjeuné avec Emmanuel Macron.
Anne Souhaitemont.
Les prétendants à l'Élysée, pour l'instant divisés sur les autoproclamés convois de la liberté.
Oui, ces opposants au pass vaccinal notamment, qui comptent rejoindre Paris d'ici demain soir sur le modèle des camionneurs canadiens à Ottawa. Les premiers sont partis hier de Nice, Perpignan ou encore Bayonne. 150 personnes étaient au rendez-vous sur la côte basque. C'est le reportage de Paul Nicolai.
Des pancartes avec des slogans, bas les masques, nos passes, des consignes au porte-voix pour organiser la logistique du déplacement, le tout sur fond musical. Les opposants au pass vaccinal se font entendre et veulent désormais peser dans le débat politique à l'approche des élections.
Reprendre notre liberté, dire toutes les mensonges qui existent depuis 2 ans. La vérité va éclater. Macron est un menteur. Le pass sanitaire n'est qu'une connerie. Le pass vaccinal est un mensonge d'État. C'est plus une crise sanitaire, c'est une crise politique.
Une vingtaine de voitures ont pris la direction de Paris pour rejoindre les autres convois de la liberté. Beaucoup d'anciens gilets jaunes.
Aujourd'hui, il n'y a plus les gilets jaunes, mais le combat est toujours le même. Toujours l'essence trop chère, les combustibles, l'EDF. En plus de ça, ils nous mettent un pass vaccinal qui ne sert strictement à rien.
C'est des gens qui se retrouvent fraternellement pour réagir à certaines choses qui sont faites contre le peuple. Une oppression.
Des critiques donc contre la politique du gouvernement, des critiques également parfois très virulentes contre les médias accusés d'être à la solde des dirigeants politiques.
Reportage France Bleu Pays Basque au Canada. Justement, le Premier ministre Justin Trudeau hausse le ton après quasiment 2 semaines de paralysie à Ottawa. Ces blocages sont inacceptables. Nous devons tout faire pour y mettre un terme. D'ailleurs, ces dernières heures, la police avertit les chauffeurs de poids lourds qu'ils risquent désormais une arrestation. Et il n'y a pas qu'en France que le mouvement fait tache d'huile. En Nouvelle-Zélande, des manifestants anti-vaccins bloquent depuis 3 jours le quartier du Parlement à Wellington. Des affrontements ont éclaté cette nuit avec la police. Au procès des attentats de novembre 2015, l'interrogatoire de Salah Abdeslam ne reprendra que le 1er mars. Hier, il a duré plus de 7 heures devant la cour d'assises spéciale. Et pour la première fois, le principal accusé a reconnu qu'il avait renoncé le soir du 13 novembre à déclencher sa ceinture explosive. On y revient dans le journal de 8 heures. La justice française débordée par les dossiers qui s'accumulent. Après une tribune cet automne et une grève en décembre, les syndicats de magistrats estiment qu'ils n'ont toujours pas été entendus sur les problèmes d'effectifs, sur les journées à rallonge. Alors ils appellent Bruxelles à la rescousse, signalement envoyé à la Commission européenne. Ce qui est en jeu, Ariane Grissel, c'est le temps de travail des magistrats français.
Si ces organisations en appellent à l'Europe, c'est parce que les règles en matière de temps de travail sont fixées par l'Union européenne. Kim Reflet est la présidente du syndicat de la magistrature.
On espère, par ce signalement, faire apparaître que les juridictions françaises ne respectent pas le droit du travail et qu'en fait que c'est grâce à ça que les tribunaux fonctionnent, c'est-à-dire par une violation quotidienne du droit du travail par les magistrats qui travaillent au-delà des amplitudes horaires quotidiennes possibles, plus que 44 heures par semaine en moyenne pendant leur congé. C'est un autre biais pour faire prendre conscience des difficultés de la justice.
Selon les syndicats, il faudrait 1300 magistrats de plus pour respecter le temps de travail légal et surtout mettre un terme à une situation qui a trop duré à leurs yeux. Céline Parizeau de l'Union syndicale des magistrats.
On continue à être saisis par nos concitoyens et nous ne pouvons pas traiter toutes ces procédures dans les maximums horaires prévus par la réglementation européenne. Donc nous ne pouvons pas respecter le droit du travail.
La Commission a désormais plusieurs possibilités, ignorer cette plainte ou demander des explications à la France. Si l'Europe n'a pas de réponse sous 70 jours, elle peut ensuite mettre en demeure l'État français ou saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
La carrière de Kurt Zouma est-elle en péril au Royaume-Uni? Le footballeur français englué dans un scandale qui n'en finit pas d'enfler. Après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, on voit le joueur de West Ham en train de maltraiter son chat. Depuis, il est sifflé dans les stades, lâché par son sponsor. Et hier soir, Richard Place, son club a fini par le sanctionner.
2 semaines de salaire, c'est la plus grosse amende possible en Première Ligue, celle que West Ham a infligée à son joueur. Une somme estimée dans son cas à 300 000 euros qui sera versée à des associations de protection des animaux. Kurt Zouma a d'ailleurs remis ses 2 chats à l'une d'entre elles le temps de l'enquête. Sur le terrain, avant-hier, il était conspué par ses propres supporters à chaque fois qu'il touchait la balle. Et l'ancien footballeur international Danny Mills ne l'a pas ménagé sur la BBC.
Non seulement ce qu'il a fait est inacceptable, mais en plus le publier sur les réseaux sociaux en pensant que c'est marrant, c'est encore pire. Je veux dire clairement que je trouve tout ça méprisable.
West Ham est un club londonien. Questionné sur le sujet, le maire de Londres, Sadiq Khan, a établi un parallèle avec les déboires actuels de Boris Johnson.
Je m'inquiète de l'effet sur les jeunes. Quand ils voient un footballeur de première ligue ou un premier ministre avec un mauvais comportement, ils pensent que c'est pas grave, que ça n'empêche pas d'avoir du succès. Non, les footballeurs, les personnalités, le maire, nous sommes des modèles, nous devons montrer l'exemple.
En décidant de le faire jouer malgré tout, son club est également emporté dans la tempête. L'un des sponsors de West Ham a suspendu son partenariat, déçu par ce choix. Londres, Richard Place, France Inter.
C'est un scrutin clé en Inde, élection régionale à partir d'aujourd'hui dans l'état de l'Uttar Pradesh, le plus peuplé du pays. Scrutin clé car le dirigeant de cette région, le moine hindouiste Yogi Adityanath, est considéré comme le successeur potentiel du premier ministre indien, Narendra Modi. Depuis 5 ans, il règne d'une main de fer sur l'Uttar Pradesh en ciblant notamment les musulmans victimes de lois discriminatoires.
Il est 7h40, l'homme de Néandertal et Homo sapiens, était-il colocataire ?
Jusque-là, chronologiquement, on pensait que le second avait remplacé le premier, mais une découverte de chercheurs français remet tout en cause. Homo sapiens, l'homme moderne, ne serait pas arrivé en Europe il y a 45 000 ans, mais en fait il y a plus de 54 000 ans. Farida Noir nous explique.
C'est en analysant les entrailles de la grotte Mandrin, à une dizaine de kilomètres au sud de Montélimar, que l'équipe du paléo-anthropologue Ludovic Slimak en arrive à cette conclusion. Dans les sédiments, il découvre des pointes de très petite taille, quelques millimètres seulement, une technique propre aux Homo sapiens. Puis une dent de lait de l'espèce extraite de la même strate scelle les conclusions des scientifiques. L'homme moderne était en fait présent sur le continent 10 000 ans plus tôt que ce que l'on croyait. L'Homo sapiens serait revenu dans la grotte une fois par an pendant 40 ans et selon les chercheurs, il y a de fortes chances qu'avec l'homme de Néandertal, les deux espèces s'y soient rencontrées ou se soient croisées sur le même territoire. Des découvertes qui rebattent donc la chronologie de la lignée humaine et l'équipe promet que la grotte de Mandrin en recèle encore d'autres.
Farida Noir et puis Nicolas, ce très étonnant bug qui touche des dizaines de conducteurs de Mazda dans la région de Seattle aux États-Unis. Le système multimédia de leur voiture est bloqué depuis plusieurs jours sur la radio publique. Ils sont donc contraints de l'écouter en permanence. Ils ne peuvent pas changer de fréquence.
Voilà, c'est déjà
nous,
le cas en France.
Nous, on n'a pas besoin de ça. France Inter pour être écouté.
Merci Alexis Morel. L'édito politique, à suivre.